Ça vous dirait d'être entrepreneur? Retrouvez-nous tous les mois dans cette chronique réalisée en partenariat avec Initiative Ariège. Sur Radio Galaxie, la radio du Sud Toulousain. Et un podcast sur radiogalaxie31.com.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Pour cette deuxième émission, Devenir entrepreneur, ça vous tente ?
Bonjour Bruno.
Le mois dernier, nous avons parlé de l'entrepreneur, de ce qu'était un entrepreneur, de qu'est-ce qui pouvait motiver un entrepreneur à vouloir créer sa structure, son entreprise, son travail. Une fois passé cette étape où on avait vu, si mes souvenirs sont bons, qu'il fallait d'abord préparer son projet, en parler autour de soi afin de le valider, ne serait-ce qu'intérieurement, c'est bien ça ?
C'est ça, donc il y avait un travail personnel qu'entreprenait effectivement l'entrepreneur en devenir, qui allait rencontrer dans son environnement un certain nombre d'interlocuteurs pour permettre un petit peu de jauger de la faisabilité, de la force de son projet. Et donc là, effectivement, on arrive aujourd'hui, Bruno, à l'étape suivante. L'entrepreneur en devenir a des certitudes. Il commence à envisager très sérieusement de changer sa vie et de s'installer à son compte. Et aujourd'hui, on va évoquer un autre paramètre, c'est celui de sortir de sa bulle, d'aller à la rencontre d'acteurs dont le métier, justement, c'est d'apporter leur soutien à des personnes qui souhaitent s'installer à leur compte. Et donc là, on va se situer dans la phase amont, avant l'installation, qui est vraiment la dernière phase importante, avant, je dirais, de mettre en place le projet concrètement.
Parce que là, c'est une phase un peu délicate quand même. Jusqu'à maintenant, les gens que j'ai rencontrés étaient des gens très bienveillants envers moi, des amis, de la famille, mes voisins. Alors que là, je vais maintenant rencontrer des professionnels qui vont un petit peu me titiller et qui vont, mais titiller peut-être pas pour me blesser, mais au contraire pour me montrer quelles sont les limites de mon projet. C'est bien ça.
C'est bien ça. Ils vont même peut-être surprendre le futur chef d'entreprise. Et ça, c'est très intéressant parce que dans sa sphère, effectivement, on a des acquis, on a des convictions. On les a plus ou moins partagés. Il y a beaucoup de porteurs de projets qui sont quand même dans un cercle au départ assez restreint. Et ça permet d'avoir des nouvelles approches, d'être surpris, je le disais, en positif, parfois avec aussi quelques remous, parce que ça peut effectivement écarter des convictions qu'on avait initialement la semaine d'avant. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans une sphère professionnelle qui déjà sort du cadre subjectif. On est sur des personnes dont le métier, c'est d'accomplir des recommandations, des conseils tout au long de la journée auprès de diverses personnes. Donc, il y a un effet de neutralité. Donc, déjà, ce point est important. Et il permet aux porteurs de projet, il permet aussi de se libérer. Ça permet une vraie libération parce que quand on commence à s'exercer donc, devant des professionnels, on a forcément des devoirs, c'est d'être clair par rapport à ce qu'on veut proposer par la suite dans la vraie vie, c'est-à-dire sur le marché. Quand on s'installe et la manière dont on va utiliser des mots pour qualifier son projet, pour le décrire, va vraiment donner ou pas de la crédibilité auprès des interlocuteurs professionnels. Et ça c'est de l'entraînement. Il y a des personnes qui sont plus ou moins à l'aise avec ce sujet, naturellement, mais c'est beaucoup de travail. Et il y a aussi des codes, des apprentissages qui se font à travers des professionnels parce que on n'a pas forcément eu dans son parcours de formation, dans sa vie professionnelle, à se poser cette question en fait, de l'entrepreneuriat. Et donc là, on va entrer dans une nouvelle sphère, celle où on va vraiment pouvoir se confronter. Et ça, je pense que ce mot, il est fort, mais il est juste. On va confronter son projet avec le regard de quelqu'un qui a l'habitude de lire et qui va pouvoir, d'une part, et je rassure donc les auditeurs, souligner les points forts, parce qu'il y a toujours des points forts sur chaque projet, mais il va aussi, de l'autre côté, relever, on en a parlé dans l'émission précédente, c'est relever les points qui peuvent être qualifiés de vigilance et qui sont justement les points les plus intéressants à travailler puisque c'est la marge qui va faire que le projet va se renforcer en solidité.
Alors, une question qui arrive souvent par rapport à cette rencontre avec des professionnels, c'est que ce sont les professionnels du conseil, certes, mais ces gens-là ont-ils créé des entreprises ? Savent-ils ce que c'est que créer une entreprise ?
Merci Bruno pour ta question parce que à titre professionnel, pour ma part, je le dis très souvent aux personnes que j'ai en face de moi et ça permet des fois aussi de détendre un peu l'atmosphère. Je leur dis toujours que j'ai beaucoup entendu les chefs d'entreprise parler, mais moi-même je ne l'ai jamais été. Donc au moins ça cadre le sujet. Donc j'essaie d'avoir quand même leur attention en faisant part de l'expérience de l'écoute et du contact des entrepreneurs dans mon métier. Mais après autour de moi, et on va en parler un petit peu des structures qui gravitent autour de l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de salariés qui ont fait le choix par le passé d'être justement à leur compte, et pour X raisons, ben, ils ont finalement choisi de revenir, ça existe, dans le salariat.
Les pauvres.
Les pauvres, pour plus plein de raisons. Et là, je fais le lien avec l'émission précédente. Hein. On parlait de, justement, de, ben, notamment de, du facteur vie personnelle. On peut avoir une affaire qui marche très bien. On peut avoir des clients de plus en plus nombreux. On peut faire sa place, on peut avoir une belle image. Et puis, au bout d'un moment, on peut avoir envie aussi de changer de vie. Et ça, c'est très personnel. Mais effectivement, dans le monde de l'entrepreneuriat et des conseils, vous avez toujours des personnes qui ont été entrepreneurs et il ne sera pas mal vu de leur poser la question. Hein. Au contraire, si vous leur posez la question et s'ils ont déjà été à leur compte, par contre, préparez un rendez-vous un petit peu plus long parce que ces choses-là se parlent souvent avec beaucoup de profondeur. C'est des étapes importantes hein, dans les vies de créer des entreprises, d'être à son compte. Donc voilà, tout existe, y compris chez les institutionnels, il y a aussi des anciens entrepreneurs.
Ce sont des professionnels du conseil qui connaissent tous les rouages du métier et surtout toutes les ficelles pour trouver et des aides ou des structures d'accueil qui permettent de nous aider à mener le projet à bien.
Ouais, alors chaque projet est forcément individuel, chaque projet a ses caractéristiques, mais il y a quand même effectivement des aspects récurrents qui reviennent en fonction des métiers. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des ratios de chiffres, il y a des réglementations, il y a des ouvertures à la clientèle locale, départementale, au-delà, nationale ou plus, en fonction des métiers et des modèles économiques. Donc tous ces aspects-là, effectivement, ça fait partie vraiment du quotidien de ces personnes qui, du matin au soir, Bruno, sont dans cet écosystème de l'entrepreneuriat. Et donc, il y aura forcément un écho intéressant en principe, dans vos échanges, vous, en tant que futur entrepreneur.
Donc, on est bien d'accord. S'il y a un seul truc à se rappeler, c'est que les gens que je vais voir, dont tu vas nous parler aujourd'hui, ne sont pas là pour planter mon projet, ne sont pas là pour me critiquer, mais sont là au contraire pour ouvrir les yeux sur les choses sur lesquelles je dois travailler plus en profondeur pour pouvoir mener ma barque à bon port.
Là, on est sur un aspect, effectivement, aussi là, subjectif, parce que j'ai envie de vous dire, vous, en tant que futur entrepreneur, c'est vous qui allez vous faire votre avis. Mais le pire, je crois que c'est de ne pas franchir la porte. C'est-à-dire que l'idée reçue, elle est à mettre derrière. Ouvrez les portes, rencontrez des acteurs. Vous allez parfois être surpris, je le disais tout à l'heure, et parfois très bien surpris. Et vous allez retenir de l'échange quelque chose de très intéressant. Et en plus, qui vous aura permis de vous libérer. Alors, il se peut effectivement que vous n'ayez pas forcément toutes les réponses au premier rendez-vous. Ça, c'est quelque chose d'assez classique parce que un projet, ben, ça englobe beaucoup de paramètres. Mais en règle générale, effectivement, moi je vous dis, ouvrez les portes et on a des très très bons retours en grande majorité sur le public qu'on accueille parce que vous rencontrez des professionnels dont c'est le métier, encore une fois, et on ne fait pas ce métier par hasard. Hein, on est dans l'aide à la personne, très clairement. Donc on apporte aussi, pour nous c'est gratifiant quand dans 2 mois, on va concrétiser avec vous votre projet. C'est votre projet, mais on aura été un acteur à un moment dans la phase de montage. Et c'est très gratifiant aussi pour les professionnels de voir que les projets aboutissent ou que parfois ils sont repoussés dans le temps pour de bonnes raisons. Donc oui, j'ai envie de dire, venez nous rencontrer. On va lister tout à l'heure un petit peu les acteurs, mais ayez cette ouverture parce que, je dirais, au pire, ça vous apportera pas de changement décisif, mais vous aurez un avis et ça renforcera peut-être vos convictions.
Alors maintenant, ok, j'ai mon projet. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Est-ce que j'ai droit à des aides? Quelles sont les personnes qui peuvent venir m'aider dans mon projet?
Voilà, ça aussi, c'est un peu la carotte, on peut le dire, c'est que c'est bien les recommandations, c'est bien les études, mais il y a aussi l'aspect financier, forcément, qui est inhérent et qui le restera tout au long de la vie de votre entreprise. C'est est-ce que, donc, déjà dans la phase cruciale du démarrage, dans la phase de nécessité de réunir des fonds, hein, donc tout ça, vous l'étudierez de manière précise, il y a effectivement toute une batterie de dispositifs qui sont là pour contribuer à renforcer votre bon démarrage d'activité. Alors, on peut donner quelques exemples. Je vais surtout pas être trop exhaustif parce que ça, c'est plutôt des sujets à voir en direct avec les professionnels. Mais si on doit donner quelques exemples, il y a par exemple, au départ, en fonction des situations personnelles, mais on peut avoir des exonérations de cotisations sociales. C'est un exemple. Alors, cotisation qui est souvent la charge la plus lourde. Hein, parlez-en à n'importe quel entrepreneur. Il vous dira que c'est l'une de ses charges les plus lourdes à supporter tous les mois. Il y a des possibilités d'accès à des primes en fonction de vos situations parfois. Il y a des accès à des prêts d'honneur. Donc ça, c'est le métier, notamment des plateformes initiatives. Il y a l'accès, je dirais, à des prêts bancaires également, hein, qui font partie très souvent de la panel des outils qui sont mobilisés pour se lancer dans de bonnes conditions. Donc ce ne sont que des exemples. Effectivement, le fait de rencontrer l'écosystème vous donnera la possibilité d'actionner quelques aides qui sont très importantes pour bien démarrer.
En fait, à chaque fois, c'est bien du cas particulier. Et donc, chaque aide, s'il y en a, s'adapte à la personne et à son projet.
C'est ça. Donc, il y a deux aspects, en fait, par rapport au dispositif d'aide qui sont là en place depuis quelques années. C'est d'une part la situation personnelle. Donc, est-ce que je suis salarié? Est-ce que je suis déjà entrepreneur par ailleurs et je crée une autre entreprise? Ou est-ce que je suis sans emploi? Et en fonction de votre situation personnelle, il y a différents dispositifs. Et après, il y a le secteur d'activité. Donc, il y a des secteurs d'activité qui vont pouvoir mobiliser certains dispositifs spécifiques, parce que ça, c'est donc des politiques qui sont menées par la région, notamment par des comités de communes, par des communautés d'agglomération, et qui mettent certains dispositifs d'aide sur du tourisme, sur de l'industrie, par exemple. Mais on ne va pas rentrer dans tous ces détails aujourd'hui, mais sachez que, au-delà, je disais, des aides techniques, il y a aussi des aides financières. Donc, si vous n'étiez pas convaincu encore de franchir, pour cette raison-là également, je pense que ça vaut l'intérêt de mettre cette énergie.
Qui peut m'aider à trouver ces aides financières?
Alors, il y a toujours donc la question de qui c'est que je vais voir en premier. C'est une question et c'est plutôt rassurant. C'est qu'il n'y a pas une réponse toute faite dans le marbre. Hein. Si vous avez raté un acteur, rassurez-vous, vous pouvez toujours le rencontrer par la suite. Mais très souvent, ce qu'on observe, en fait, notamment pour les gens qui sont sans emploi, et on l'ignore parfois, mais les agences Pôle emploi sont aussi spécialisées sur la création d'entreprises. Donc on connaît leur métier sur le volet, donc je dirais recherche d'emploi salarié, mais ils ont aussi des services dédiés à l'entrepreneuriat. Et il existe donc chez Pôle emploi des dispositifs, que ce soit pour des prises en charge en fonction de ses droits ou en fonction de souhaits de formation spécifique, il existe des services qui sont dédiés à l'entrepreneuriat. Donc Pôle emploi fait partie, je pense, pour une partie du public, d'un des premiers interlocuteurs à rencontrer. Vous avez les communautés, je disais, de communes et d'agglomérations qui ont la compétence économique et qui vont pouvoir vous orienter vers les structures dédiées en fonction de votre lieu d'implantation. Donc ça, c'est important.
Lieu d'implantation et secteur d'activité, peut-être.
Tout à fait. Mais déjà, la communauté de communes dont vous dépendez a forcément un service économique dédié à la création reprise d'entreprise. Donc allez les rencontrer. Vous serez très certainement orienté, et vous pouvez le faire dès à présent, vers des chambres consulaires. Alors c'est important de rappeler qu'une chambre consulaire, c'est une structure, et ça rassure souvent les entrepreneurs en devenir, ce sont des structures qui sont pilotées par des chefs d'entreprise. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont été à votre place et qui, il y a 20 ans en arrière, ont créé leur entreprise et qui ont décidé de dédier un petit peu de leur temps pour aider les nouveaux futurs entrepreneurs. Et donc il y a 3 chambres consulaires qui existent sur nos territoires. Il y a la chambre d'agriculture, comme le nom l'indique, pour tous les projets agricoles. Il y a la chambre de métiers de l'artisanat, donc qui recouvre plus de 200 métiers. Vous aurez une rencontre avec leur service si vous dépendez effectivement d'une activité artisanale. Et enfin, vous avez la troisième chambre, qui est la chambre de commerce et d'industrie, qui va regrouper donc tous les métiers industriels, plus des activités, je dirais, de commerce classique, de commerce, et c'est quelque chose plutôt contemporain, de vente en ligne. Donc voilà, vous avez dans ces structures consulaires des équipes dédiées et qui sont vraiment spécialisées. Donc là, on est vraiment une spécialisation par métier qui va vous apporter des informations sur votre faisabilité du projet, avec des informations sur votre clientèle, sur le nombre de concurrents qui sont installés, par exemple. Et ça va vous aider à confirmer les informations que vous aviez collectées dans la phase, je dirais, de travail personnel qu'on avait vu la dernière fois.
Parce que ces gens-là, justement, ont accès à des informations qui sont précieuses et que je ne peux pas avoir autrement. C'est leur métier de récolter ces données, c'est ça?
Alors, il y a des études qui sont faites tous les ans sur des chefs d'entreprise installés. Ils ont des informations par les statistiques nationales. Donc, il y a vraiment un recoupement très précis. Et chaque chambre est en mesure de connaître globalement la couverture d'un territoire sur telle profession. Et de vous dire aussi, monsieur, madame, vous avez un projet qui est sur une zone où il y a X concurrents, donc c'est pas forcément rédhibitoire, c'est pas forcément pénalisant, mais ça va vous obliger à vous diversifier, à faire mieux que d'autres. Et toutes ces informations, elles sont très importantes parce qu'elles vont permettre de confirmer ou d'infirmer parfois les informations prises personnellement au préalable.
J'ai les chambres consulaires, j'ai Pôle emploi, qui ai-je d'autre encore ?
Alors, il y a aussi donc parfois, et ça c'est un sujet important, c'est le sujet de la réglementation. Donc quand vous allez effectivement sur des chambres consulaires, vous pouvez entendre parler d'obligations. Hein. Je prends un exemple, quelqu'un qui veut s'installer électricien, bon, mais il y a des qualifications à avoir. Pour lui, c'est bien, et pour nous aussi. Donc voilà, il y a des diplômes en fait, ou des années d'expérience à faire valoir pour certains métiers artisanaux, c'est un exemple. Mais tous les services, je dirais, de l'État également, en fonction de votre activité, pourra vous donner des informations sur l'aspect réglementaire. Mais là, on est vraiment sur du cas par cas. Si vous êtes sur des métiers, par exemple, d'accueil, un camping, par exemple, ben voilà, vous avez des droits et des devoirs. Donc, les chambres consulaires vous donneront ces informations et parfois, vous serez en contact avec des services de l'État. Mais encore une fois, ça dépendra vraiment de votre activité. Après, au-delà de l'aspect réglementaire, bon, il y a des acteurs privés qui seront vos futurs partenaires plus tard. Et ça, c'est très important. Et ça se fait aussi en progression. C'est-à-dire que vous allez commencer à aller les rencontrer quand vous commencez à avoir un projet qui commence à être bien mûr dans votre esprit. Là, je vais parler des cabinets d'assurance qui vont confirmer vos informations, l'aspect réglementaire. Il y a les experts comptables avec qui vous allez discuter de l'avenir. D'accord, moi, j'ai des obligations fiscales, sociales à tenir. J'ai des bilans à rendre à la fin de mes exercices. Quelle est la collaboration que l'expert comptable va vous proposer? À quel tarif? Dans quelles conditions? Quelle fréquence? Il y a les banques qu'il faudra aller rencontrer, évidemment. Il y a les plateformes initiatives dont je fais partie, qui sont à un moment simultané de votre recherche de financement bancaire, puisque nous, on intervient, les plateformes initiatives, donc Initiative Ariège pour ma part, on intervient finalement souvent au tout début en information générale, mais quand on intervient spécifiquement sur un projet, c'est qu'on le finance, donc c'est qu'on octroie un prêt, et donc ça se fait en fin de parcours, quand vous êtes en mesure de savoir exprimer parfaitement votre projet, que vous l'avez écrit, et le dossier que vous allez déposer chez nous, ça sera le même que vous déposerez à la banque. Là, je pense qu'on commence à avoir fait un petit peu le plan hein, sur les différents acteurs à rencontrer, Pôle emploi, communauté de communes, chambre consulaire, des acteurs privés, assureurs, experts comptables. Et ensuite, la dernière étape, c'est les financements qu'il faut mobiliser pour démarrer dans de bonnes conditions. Et ça, c'est primordial, et notamment les plateformes initiatives.
À la suite de ces rencontres, à la suite de ces contacts, l'objectif, c'est que la personne sache correctement présenter son projet, qu'elle sache faire tout le tour et répondre à toutes les questions.
Oui, là, on est dans, je dirais, la phase encore théorique, qui n'est pas toujours simple à gérer, puisqu'il y a des personnes notamment qui souhaitent s'installer artisans, et ça va très vite, hein, le bouche à oreille, donc ils l'ont dit à de plus en plus de monde, et des fois le téléphone, il sonne 3, 4 fois, 5 fois par matinée, parce qu'il y a des clients potentiels qui veulent faire appel à leur service, et c'est important en fait, de finaliser. C'est comme, je sais pas, je vais prendre une image sur laquelle je brille pas particulièrement, mais je la prends quand même, le bâtiment. C'est-à-dire que on dit toujours que quand il faut finaliser un chantier, ben le plus dur, c'est parfois les finitions, c'est quand il faut aller au bout. Et puis quand on s'installe, les finitions, finalement, des fois, elles sont pas faites. Et là, c'est un petit peu le sujet. C'est-à-dire que le danger de s'installer trop vite parce qu'on a un succès, parce qu'il y a des clients qui nous sollicitent dès le départ, il est de pas sécuriser, justement, ses financements. Je vais pas aller trop dans les détails, mais l'idée, c'est que vous soyez en couverture d'un déficit de trésorerie, c'est-à-dire de découvert bancaire dès le départ, qui vous mettrait dans une situation en plus difficile avec votre partenaire forcément bancaire, expert comptable, mais en plus qui peut vous nuire à votre sérénité. C'est vraiment finaliser vos démarches de recherche de financement. Obtenez vos financements avant de vous lancer vraiment dans l'arène, parce qu'après vous aurez peu de temps pour les projets de financement. Donc allez au bout, et ensuite vous aurez tout loisir de répondre aux clients et de mettre en place votre quotidien d'entrepreneur.
Ça, de toute façon, on y viendra dans des émissions futures. Exactement. Sur ces histoires de financement, etc. Je reviens maintenant, on en a encore à la phase d'amont, comme tu disais, de préparation intellectuelle. On écrit son projet sur le papier, ça commence à prendre vraiment forme. On passera dans les prochaines émissions aux étapes suivantes, c'est-à-dire de commencer à chiffrer son projet, mais ça, on n'en parle pas tout de suite. L'idée maintenant, c'est de voir que chaque projet est unique. Et chaque partenaire, en fait, pourra répondre spécifiquement à mon projet, c'est ça?
Oui, il va apporter une réponse à votre projet. Déjà, le et les partenaires sollicités, parfois, ce n'est pas simple d'entendre que son projet a telle fragilité. C'est plus acceptable quand ils sont trois ou quatre à le dire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, moi, que j'ai beaucoup de retours sur des personnes qui montent leur projet, c'est que finalement, quand on est trois, avoir soulevé un point et qu'il n'est pas tout à fait réglé, c'est quelque chose qui donne aussi de l'énergie pour arriver à le régler. Après, il faut penser que cet écosystème de partenaires, il va vous donner confiance parce qu'il doit vous permettre justement de lever les obstacles, on l'a dit, et il va crédibiliser votre projet vis-à-vis de tous les tiers. C'est-à-dire, je parlais beaucoup du banquier, de nous en tant que plateforme initiative, mais aussi auprès de fournisseurs. Il y a des fournisseurs qui vont vous demander, avant de travailler avec vous, quelles sont vos références, qu'est-ce que vous avez fait comme démarche. Et c'est vrai que ça vous permettra d'appuyer sur le bouton et de répéter ce que vous avez déjà dit X fois. Et quand vous commencez à maîtriser vraiment votre sujet, ça se sent, ça se perçoit. Et donc, il y a ce gage de crédibilité qui est donné aussi par toutes ces démarches qui prennent de l'énergie. Hein. On en est conscient, on en est très conscient. Avec des aides derrière, on l'a dit, qui sont quand même là aussi pour récompenser, je dirais, les différentes démarches effectuées. Mais ça vous donnera finalement un cadre pour appréhender votre futur et la vraie réalité de l'entreprise que vous allez avoir au quotidien. Donc voilà, le mot, je crois, de cette émission, c'est entourez-vous, frappez aux portes et derrière, communiquez. Il faut que vous sachiez dire aussi vos appréciations. Nous, on est aussi là pour les entendre. Si vous avez parfois des questions, des doutes, il faut échanger au maximum. Comme on le disait, ça permet d'arriver à la finalisation vraiment de son projet juste avant le décollage.
Mes parents sont artisans. Je veux être artisan. Est-ce que je dois aller consulter des conseillers ?
Je reviens au tout début de l'émission. On parlait de l'aspect affectif. Je crois qu'on y est là, hein, Bruno. Tu es forcément dans une relation qui n'est pas forcément complètement objective quand tu vas avoir ton oncle ou ton père ou qui va te donner une recommandation, qui va te donner son point de vue. Ce qui est intéressant aussi, c'est de, on le disait dans la première émission, c'est qu'il y a plusieurs moyens d'y arriver. Ton père a été un artisan brillant ou l'est toujours encore. Tu vas peut-être l'être aussi, mais de manière différente. Parce que tu auras aussi vu d'autres approches, parce que les outils évoluent aussi. Et parce qu'il y a beaucoup de manières de faire un métier et puis de s'adapter aussi aux nouveaux outils, aux nouvelles propositions qui sont parfois là pour nous faire gagner de l'efficacité, quoi, du temps, de l'argent. Donc je dirais que c'est compatible, c'est une opportunité que ton père soit artisan, mais ça n'empêche pas que la recommandation d'une tierce personne professionnelle qui n'aura rien à voir avec ton cadre ne manquera pas de pertinence.
Avoir des conseils extérieurs qui font que je ne vais pas reproduire certaines erreurs que je n'aurais pas forcément vues.
Tu feras surtout ton parcours à toi, et ça sera ta griffe. Et je crois qu'un entrepreneur, pour discuter tous les jours avec certains, on est, nous, en Ariège, sur un petit territoire, 150 000 habitants, je le rappelle, donc c'est facile de croiser un artisan qu'on a aidé. Il y a la notion, de toute façon, de conception, on le disait la dernière fois, il y a la notion où on met sa propre griffe. Et je ne connais pas un entrepreneur qui dit qu'il souhaite faire exactement comme ses parents. Ça, c'est pas possible. Quand bien même il y a une continuité familiale, je crois que faire son propre parcours avec ses propres rencontres, donc y compris celles professionnelles dont on a parlé, ça permet de se construire et de savoir où on veut aller avec plein d'options et avec donc le choix des boutons, si je puis dire, par rapport à ceux sur lesquels appuyer ton père, ça sera pas forcément les mêmes sur lesquels tu voudras appuyer parce que voilà, chacun est unique, chaque entreprise est unique.
Donc c'est bien ça. Une fois que j'ai bâti mon projet, le conseil, c'est ouvrez la porte, allez, sortez de votre bulle, allez voir des professionnels pour avoir d'autres conseils sur votre projet.
Renforcez surtout vos convictions, faites-vous surprendre, adaptez, soyez ouvert à la critique. Et puis derrière, vous aurez, je pense, quelque chose sans aucun regret, parce que vous aurez fait le tour de plein d'options différentes et l'hypothèse retenue, ça sera vous, quoi. Ça sera celle que vous aurez cochée. Et encore une fois, les taux de pérennité, mais ça, c'est important, on le montre, en fait. Les gens qui se font accompagner ont vraiment des taux de survie beaucoup plus importants que la moyenne. Si je dois donner un chiffre, il y a une entreprise sur deux qui passe pas le cap aujourd'hui des 3 ans. Parmi les entreprises dont on a, nous, connaissance, qui obtiennent des financements de nos services, qui passent par les chambres consulaires, les intercommunalités, ben, elles sont près de 8 sur 10 à être toujours là 3 ans après. Il y a vraiment une importance, et les chiffres le montrent, en fait, parce que pour tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, ça permet, en fait, d'affiner et de se renforcer sur les bonnes pratiques dès le départ, qui vont être décisives pour bien se lancer.
Ton travail à toi chez Initiative Ariège, c'est de préparer ces gens à rencontrer toutes ces personnes.
Bon, nous, on est sur vraiment l'aspect financement, comme je disais, qui est une étape quasi finale avant la concrétisation et l'immatriculation de l'entreprise. Mais on invite effectivement toutes les personnes à venir le plus tôt possible, donc sous forme de réunion collective au départ. Ça permet aussi de rencontrer d'autres personnes qui ont des idées d'entrepreneuriat, qui se posent les mêmes questions que vous, même s'ils ne sont pas du tout sur le même secteur d'activité ou les mêmes projets. Et donc voilà, on a nous des réunions d'information hebdomadaires, toutes les structures en proposent, et ça permet voilà, de monter en gamme et de prendre de plus en plus d'informations. Je le dis toujours qu'à partir du moment où vous allez commencer à constater qu'on dit à peu près tous les mêmes choses, ça ne sera pas le plus grisant, mais ça sera rassurant. Voilà, ça veut dire que globalement, vous aurez absorbé, je dirais, un petit peu toutes les informations utiles pour le bon lancement.
Loïc Cresto, directeur général de Initiative Ariège, merci.
Bruno, merci à toi.
Et puis, à une prochaine émission. Maintenant, on attaquera la partie plus dure, c'est-à-dire la partie chiffres.
On ira un petit peu plus dans le détail.
À très bientôt. Au revoir, Loïc.
Merci.
L'aventure commence à l'aurore de chaque matin. L'aventure commence alors que la lumière nous lave les mains. L'aventure commence à l'aurore et l'aurore nous guide en chemin. L'aventure, c'est le trésor que l'on découvre à chaque matin.
L'aventure commence à l'aurore de chaque matin. L'aventure commence alors que la lumière nous lave les mains. L'aventure commence à l'aurore.